Alors, Stefano Allievi, qui est professeur d'université en Italie, très connu pour ses travaux sur les conversions. Et maintenant, depuis un an ou deux, tu travailles sur les phénomènes de la radicalisation en Italie. Et la première question que j'aimerais bien te poser est de savoir quel est le trait distinctif, la spécificité de l'Italie par rapport, par exemple, à un pays comme la France pour ce qui est de la radicalisation.
Mais je crois qu'il y en a plusieurs qui viennent aussi de plus loin, c'est-à-dire que l'immigration des pays musulmans est arrivée beaucoup plus tard en Italie. Dès qu'il y avait des immigrés musulmans en France, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, etc., l'Italie était encore exportateur de main-d'œuvre, si on veut. Et donc, c'est tout un type d'intégration complètement différent. Ce n'est pas dans les grandes villes, mais c'est beaucoup dans les petites villes, dans les villes moyennes et même dans les villages ruraux. Donc, c'est une intégration dans laquelle on se connaît, plus ou moins. Je parle volontiers d'islam dialectal plutôt que d'islam italien, parce que c'est une intégration à niveau personnel qui donne aussi un peu plus de contrôle, si on veut, de contrôle social, d'intégration réelle aussi, dans les écoles et dans d'autres milieux. Donc la radicalisation suit ce processus, parce que la plupart des gens qui sont partis de l'Italie, pour le moment, ça fait 90 personnes qui sont parties comme foreign fighters pour se battre en Syrie. En grande majorité sont encore de première génération, pas de jeunes, des adolescents. Il y en a, mais dans des nombres beaucoup plus faibles que dans d'autres pays comme la France. Et aussi, ils viennent surtout de petites filles, de lieux marginaux en quelque sorte, gens qui habitaient à la périphérie de Naples, de Milan, dans des petites, vraiment petites villes au-dessous des montagnes, donc relativement extérieures au monde islamique, à ses dynamiques, à ses associations, marginaux du point de vue social et du point de vue religieux aussi. C'est important, évidemment, comme partout, le rôle d'Internet, mais cette marginalité suburbaine, je dirais, joue un rôle sûrement intéressant. L'autre chose qu'on a vue, comme autre part, mais avec une certaine spécificité, c'est que souvent ce sont des conversions pas en solitaire. Il y a des liens, des couples, que ce soit mari et femme, que ce soit deux amis, que ce soit deux frères. Donc, qui s'aident un peu dans ces ambiances, comme je dis, un peu marginaux, extérieurs, se donnent de la force, si on veut, du soutien l'un pour l'autre. Autre chose, c'est aussi évidemment les choses qu'on trouve partout, les conflits avec la famille, des processus d'isolement. Des questions pareilles qui sont communes au processus de radicalisation un peu partout.
Tu as travaillé sur le cas de cette fille qui s'est en fait convertie, ensuite est partie, et a essayé de faire venir la famille, enfin, etc. Enfin, ce cas est quand même, ça a impressionné d'abord le public italien. Ensuite, ça a posé la question des convertis, surtout la conversion des femmes.
Oui, c'est un cas extrêmement intéressant parce que c'est une conversion avant tout et encore qui démontre cette marginalité. Alors, elle vient d'une famille humile, c'était la première à avoir étudié dans la famille, elle s'est radicalisée tout seule, elle s'est convertie tout seule, s'est radicalisée tout seule. Elle a commencé à fréquenter l'université avec le niqab à un certain moment. À Milan, mais c'est effectivement aussi un processus d'émancipation féminine parce qu'elle voulait se radicaliser. Alors, elle a connu un Marocain qui travaillait dans une pizzeria, l'a marié, mais comme il était un musulman faible, il buvait, il avait aussi fait un peu de violence sur elle, elle s'est divorcée. Et vu qu'elle avait décidé de partir pour la Syrie, elle s'est mariée elle a trouvé un Albanais radical, elle s'est mariée, dans une semaine elle était déjà là. Et de là, elle a essayé elle avait déjà réussi à convertir sa sœur et ses deux parents. Alors ils ont été fermés avant qu'ils laissent le pays. Mais tous les coups de téléphone qui ont été interceptés, comme ça, montrent très clairement cette idée de convaincre qu'on pouvait aller vivre dans le paradis, dans un paradis très pauvre, humide, matériellement modeste, la mère qui demandait s'il y avait la lave-vaisselle au Daesh ou s'il pouvait emporter ses chats. Et des choses comme ça qui montrent cet isolement social aussi de la famille en tant que telle.
C'est un cas encore exceptionnel en Italie. Je veux dire, on n'a pas énormément de conversions de femmes ou d'hommes, surtout, enfin, elle était de petite classe moyenne,
Oui, même niveau très populaire.
très
Très populaire.
populaire, et par
Donc, il y
conséquent.
avait une forme aussi de surenchère envers la société.
C'est ça.
Je vous montre que je suis quelque chose ou quelqu'un.
Exactement. Et puis là, qu'en Syrie, on pouvait bénéficier d'un statut social supérieur, en quelque sorte, sur le plan financier, sur le plan économique.
Probablement oui, mais c'est aussi vraiment une façon de dire, moi je suis vraiment quelqu'un, j'ai une personnalité, je vous montre de quoi je suis capable. Ce qui n'était pas possible, même parce qu'elle ne fréquentait pas les milieux, disons, musulmans, les mosquées, pas forcément, vraiment des petites mosquées marginales, je veux dire, vraiment dans des petites villes. Et c'était tout. Mais on a d'autres cas. Non, en Italie, on a des conversions depuis une vingtaine d'années. Surtout, j'avais encore étudié les conversions il y a 25 ans, j'ai fait ma thèse de doctorat sur ça. Et j'ai vu qu'effectivement, elle continue, mais elle change un peu de forme. À cette époque-là, il y a 20 ans, 25 ans, c'était surtout soit des soufis, soit des intellectuels. Donc, niveau élevé de scolarisation. Et maintenant, ça commence à avoir les jeunes ou les très jeunes qui se connaissent dans les quartiers, à l'école. Et donc, les conversions des presque adolescents, ou un peu plus qu'adolescents. Mais ça, c'est vraiment nouveau. Un autre cas intéressant en Italie a été celui de Mariem. Près de la ville où j'habite, près de Padoue. Donc, encore un petit village. Et c'était le cas classique qu'on voit souvent en France, par exemple, des ruptures avec la famille et d'une fille qui s'est radicalisée encore une fois sur Internet, tout seul, qu'elle a commencé à jouer un rôle sur Internet. Des conseils à d'autres, elle a réussi à partir, probablement avec de l'argent prêté par quelques recrutateurs, en quelque sorte, facilitateurs, disons. Et elle a dit qu'elle était en train d'aller quelques jours en vacances avec des amis pour gagner un peu de temps, et a acheté un billet aller-retour et elle est partie pour la Syrie. Et dès là, elle a commencé à jouer un rôle, soit avec le nom de Sister Rim, comme, disons, animateur de chats et de blogs féminins pour convaincre d'autres filles à partir. Mais ça a été relativement rare comme cas. Parmi les 90 qui sont partis, les femmes sont une vingtaine plus ou moins en Italie. Et l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est rare aussi pour l'âge, parce que la grande majorité de ceux qui sont partis sont des premières générations encore.
Merci beaucoup Stefano.
C'est un
Tu nous as
plaisir.
donné une image de l'Italie dans sa différence avec la France, à savoir première, à peine deuxième génération, avec une distribution de la population qui ne s'est pas faite comme dans les banlieues en France, mais plutôt dans les petites villes, dans les zones rurales, de façon différente, ce qui fait que ce mal-être des banlieues, sous cette forme-là du moins, n'existe pas en Italie. Ça existe sous d'autres formes, mais ça n'a pas cet effet amplificateur qu'on a dans les banlieues en France.
Sans doute que non. Il n'existe pas de banlieue, au
C'est
strict
ça.
sens du terme, en Italie encore.
Merci beaucoup.
À vous.